Maintenant, j'en arrive à cette seconde partie. Comment est-ce qu'on peut transmettre le savoir, finalement, à ceux qui n'ont pas, je vous parlais tout à l'heure de compétences psychiques pour recevoir le savoir, à ceux qui n'ont pas ces moyens d'affronter les contraintes? Comment est-ce qu'on transmet le savoir à cela? Oui, il faut répondre à cette question. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui va avec, moi aussi, que je me suis posé pendant toute ma carrière et que les enseignants me posent de toute façon à chaque fois. Eux, les enseignants, ils disent toujours, mais comment on fait fonctionner une classe où il y a des élèves comme ça? Comment est-ce qu'on fait fonctionner une classe quand il y a des élèves qui n'ont pas le niveau pour faire le programme annoncé par la classe et surtout qui n'ont pas un comportement adapté à ce travail que je vais leur proposer? Vous voyez, c'est les questions. Je ne pense pas que ces questions vous surprennent. Si je vous avais laissé, vous auriez peut-être posé les mêmes, parce que finalement, c'est toujours un peu ces questions, et c'est normal. Hein. Alors, comment donc transmettre le savoir à ceux qu'on appelle ces empêchements de penser? Et là, bon, moi je dirais qu'il y a un impératif. Après, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, on verra si vous êtes d'accord avec l'impératif, il faut restaurer la capacité de ces enfants à penser. C'est une priorité, il y a quelque chose là d'incontournable qu'il faut faire avec eux. Il va falloir aller de ce côté-là. Il va falloir restaurer cette capacité à penser et leur redonner ces compétences intérieures qui leur manquent. Les deux vont ensemble, d'ailleurs. Pour moi, les deux vont ensemble, le travail se fait simultanément, donc les deux vont ensemble. Alors déjà, rien que de dire ça, vous voyez, est-ce que dans le cadre pédagogique, on a ce qu'il faut pour faire ça? Ouais, c'est une première question. Ensuite, est-ce que ça ne va pas dénaturer l'identité de l'enseignant, son programme, ce qu'il a à faire passer, son message? Vous voyez, c'est encore un peu la même question. Est-ce que, en gros, est-ce que c'est compatible avec le programme, si on fait ça? Et si on fait ça, est-ce qu'on va s'occuper de la pensée de ceux qui sont un peu en déroute, comme ça? Et qu'est-ce qu'on va faire des bons élèves pendant ce temps-là? Vous voyez, est-ce qu'on va les laisser tomber pour s'occuper des 15% qui ont ce problème, alors que de l'autre côté, il y en a au moins les trois quarts qui nous posent pas trop de problèmes, même si on arrive avec nos propositions pédagogiques un peu tranquilles. Vous voyez, donc ça, c'est... Alors moi, à toutes ces questions, je réponds oui, on a les moyens. Donc déjà, oui, on peut le faire. Oui, ça fait partie du travail de l'enseignant. Moi, j'ai pas d'hésitation là-dessus, parce que l'enseignant, pour moi, c'est celui, le professeur, quelle que soit la classe où il est, que ce soit en maternelle comme en lycée professionnel, il a à sa disposition les deux leviers les plus efficaces pour stimuler la pensée avec la culture et le langage. Et si c'est se servir de ces deux leviers, il va en trouver un troisième, c'est le groupe, la dynamique du groupe. Donc il y a les deux premiers leviers, la culture et le langage, et ça va déboucher sur un troisième, qui est la dynamique du groupe, et ça, voilà comment moi je pense qu'il est possible de sortir de cette situation difficile, voire désastreuse, dans certains collèges et établissements scolaires. Alors, pour relancer la machine à penser, donc voilà mes propositions générales. J'arrive à détailler un petit peu, mais d'abord je voudrais dire que pour relancer la machine à penser, moi voilà comment je vois les choses. D'abord, il faut l'alimenter. Ça, si on l'alimente pas, on la fera pas fonctionner. En second, il faut l'entraîner à fonctionner. L'alimenter, l'entraîner à fonctionner. Et en troisième, il faut donner envie aux enfants de s'en servir. Leur donner envie, leur donner l'occasion. Alors, comment est-ce qu'on peut penser à faire ça? Pour l'alimenter, il n'y a pas mieux et on ne peut pas trouver mieux qu'un apport culturel intensif. Apport culturel intensif, moi je dis même nourrissage culturel. Alors, Je vous expliquerai après pourquoi. Hein, il y a beaucoup de choses à faire avec le nourrissage culturel. Mais la première étape, ça consiste en des lectures à haute voix de textes un peu particuliers. Moi, j'insiste beaucoup sur les textes fondamentaux. Hein, je vous dirai pourquoi, mais pour moi, ça, c'est très important. Pour l'entraîner à fonctionner, il n'y a pas mieux que de donner aux enfants l'occasion de parler, aux petits comme aux grands. Hein, ça, pour moi, ça ne s'arrête pas au lycée professionnel. Ça. L'entraînement à débattre, il n'y a pas mieux comme exercice pour faire pour avoir cet espoir de relance de la pensée. Hein. Et là, il faut s'appuyer, je le dirai après, mais par les sujets qui sont amenés par le nourrissage culturel, hein, pas ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est le nourrissage culturel qui permet d'avoir cette occasion de débattre. Et puis pour donner l'envie de s'en servir, ça c'est mon troisième point, là cette fois il faut donner des racines et du sens au savoir que nous allons proposer en classe, hein, surtout quand il s'agit des savoirs fondamentaux, en les reliant à cette culture partagée qu'on a donnée avec le nourrissage culturel et l'entraînement à parler. Donc, relier les savoirs. On ne peut pas relier tous les savoirs, mais au moins les savoirs fondamentaux à cette plateforme qu'on a créée avec la culture, avec le langage. Et vous savez, là, culture, langage et groupe, c'est ce qui permet de créer une nouvelle dimension.